Amen.
Oh, bravo, oui. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Très intéressant. Dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. Vous gardez vos Bibles ici. Vous me connaissez déjà maintenant. On ne fait pas de marathon, mais on étudie un texte ou un passage ou un chapitre lorsque nous sommes ici. Nous ferons peut-être, nous irons peut-être ailleurs, peut-être une ou deux fois, mais nous resterons dans ce passage. Ce soir, je veux introduire ce sermon en vous rappelant que le 29 novembre 2007, si mes souvenirs sont bons, en Martinique, nous avons eu un séisme de magnitude 7,4, si mes souvenirs sont bons. Je me rappelle ce jour-là, j'étais couché sur mon divan à la maison, je revenais du travail, ma dernière fille Livia était encore une gamine qui avait à peine un an, jouait sur le balcon, mon épouse dormait dans la chambre. Lorsque ça a commencé à secouer, nous habitions un petit immeuble du côté de Châteaubœuf, à Monde-Morisseau plus précisément, et lorsque ça a commencé à trembler, cet immeuble n'est pas sûr. Donc lorsque j'ai vu que ça a commencé à trembler, j'ai gardé mon sang-froid, car avant d'être l'homme que je suis ici, je suis un professionnel de la sécurité. Donc j'ai gardé mon sang-froid et j'ai appelé ma dernière petite fille. J'ai lui ai tendu la main parce qu'elle commençait à regarder un petit peu partout, elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Je lui ai donné la main, j'ai appelé mon épouse où elle est sortie, je crois qu'elle est sortie d'elle-même. Elle commençait peut-être des fois à s'affoler, mais elle a compris qu'il fallait marcher. Parce que des fois on se fait plus de tort en courant. En voulant sauver notre vie, des fois on peut perdre la vie. Donc il vaut mieux garder son sang-froid et sortir tranquillement. Et je me rappelle l'un des hommes les plus arrogants de l'immeuble. On l'a vu en caleçon, courant, criant, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Et c'est sa femme qui a dû l'arrêter. Mais chérie, mais calme-toi, mais chérie, ça va aller, calme-toi. L'un des hommes les plus arrogants, lorsque ça a arrêté de trembler, il avait honte. J'essaie de vous dire une chose ce soir. Après ce tremblement de terre, je me rappelle, beaucoup de gens ont dit, le Seigneur donne un avertissement à la Martinique. Donc on a attribué au Seigneur ce qui s'était produit là. Je me rappelle, il y a eu aussi ce tremblement de terre en Haïti. Il y a eu des milliers de morts. Et qu'est-ce que des hommes en Martinique ont dit? Le Seigneur a frappé Haïti à cause de cette culture, comment ils appellent ça, vaudou. À cause de cette culture vaudou, le Seigneur a frappé Haïti. Je me rappelle encore de ce tsunami qu'il y a eu dans la mer des Indes, en quelque part par là. Il y a eu plus de 244 000 morts. Et je me rappelle le discours des gens lorsqu'ils ont dit « Dieu a frappé ». Je vois que souvent, lorsque de grosses choses comme cela arrivent, nous attribuons cela à Dieu. Mais allons voir la chose, mettons-nous de l'autre côté. Imaginez que vous êtes cette famille, que ce tsunami est arrivé et que ce tsunami a décimé votre famille. Cela voudrait-il dire que Dieu vous a frappé? Cela voudrait-il dire que vous n'êtes pas assez bon et que Dieu est en train de vous donner une leçon? Mettons-nous de l'autre côté, allons en Haïti. Hein? Vous avez perdu vos enfants, votre femme, tous, lorsque la maison s'est écroulée, sont restés en dessous de ce béton. Alors que d'autres disent, Dieu a frappé Haïti à cause de la culture vaudou. Cela voudrait-il dire que vous étiez dans cette culture vaudou? Combien d'adventistes sont morts dans ce séisme? Cela voudrait-il dire que le Seigneur les a frappés? Quelquefois, il nous faut faire attention à ce que nous disons, chers amis. Nous attribuons à Dieu tout ce qu'il y a de plus mauvais sur terre. Dès qu'un homme meurt ou quelque chose, une catastrophe arrive, c'est Dieu qui a frappé. Mais nous oublions une chose, chers amis. Nous oublions que nous sommes dans une espèce de grand conflit cosmique. Nous oublions que nous sommes dans une espèce de conflit, une guerre du bien contre le mal. Nous oublions ce que la Bible nous enseigne dans la Genèse. Nous oublions, chers amis, que Satan lui-même, bien souvent, s'est présenté devant Dieu, réclamant que la terre lui appartient. Nous oublions l'histoire de Job que nous verrons sous peu, chers amis. Nous oublions ces choses. Nous oublions que cet être maléfique est là pour décimer le plus que possible. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, que nous puissions connaître une chose. Et cette chose s'appelle la promesse que Dieu nous a faite, qui est de vivre avec lui, qui est que il veut que nous soyons là où lui, il est, chers amis. Alors il sait ce qu'il a perdu et il ne veut pas que nous puissions connaître ce bonheur. Est-ce que nous sommes en phase, chers amis? Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Comment situer Dieu dans tout ça? Lorsque ce père haïtien a perdu sa femme, ses enfants, ses nièces, ses neveux, et qu'il est découragé, chers amis, et qu'il est assis le soir, et qu'il dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi pas un autre? Mais pourquoi moi, Seigneur? Lorsqu'il y a eu ce tsunami, chers amis, et que des familles ont été décimées, quelquefois même, nous avons peut-être un seul membre de la famille restant, encore vivant. Lorsqu'il est assis le soir et qu'il prie et qu'il dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Il en arrive même à parler comme les autres et à croire que c'est Dieu qui l'a frappé parce qu'il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela? Souvent, nous avons cette même question. Je me rappelle lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, l'une de mes cousines est venue me voir et elle m'a dit, Wilfried, maintenant que tu as accepté Jésus dans ta vie, peut-être que tu pourras me dire pourquoi il y a tant de SDF dans les rues. Peut-être que tu pourras me dire pourquoi il y a tant d'enfants qui sont exploités. Peut-être que tu pourras me dire pourquoi tant d'enfants meurent par an. Peut-être que tu pourras me dire pourquoi le malheur sévit sur cette terre. Peut-être que tu pourras m'expliquer tout ça. Et ne me donne pas une réponse toute faite. Je lui ai dit, tu sais quoi? Peut-être que pour toi, ma réponse sera toute faite. Parce que je vais te dire une chose. Ma réponse sera la même. Cela ne vient pas du Seigneur, mon ami. Cela ne vient pas du Seigneur. Il s'est passé quelque chose dans la jeunesse qui fait que nous subissons tout cela. Mais Jésus nous dit à travers sa parole, chers amis, que lorsque quelqu'un croit en lui, nous avons vu ça avant-hier soir, quand même il serait mort, chers amis, mais il vivra. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Jésus nous donne, chers amis, de l'espoir. Et j'ai envie de dire ce soir que Jésus est notre dernier espoir. Mais j'ai envie d'encourager ce soir. Parce que c'est bien beau ces mots. Mais lorsque vous avez des gens, comme dans cette assemblée, je suis sûr, qui sont là et qui sont assaillis par le malheur, j'ai envie de les encourager ce soir. J'ai envie de leur dire que moi aussi, je vis mon malheur. Moi aussi, ne me regarde pas là avec ma jolie cravate blanche et ma jolie chemise noire. Non, ne va pas croire, mon ami, que je n'ai pas mon lot. Nous verrons cela tout à l'heure, car je veux d'abord commencer avec la parole. Je veux vous emmener, je veux vous faire vivre une histoire qu'a vécu une femme. Mais je veux surtout accentuer comment cette femme a réagi face à ce malheur. La Bible nous dit dans le verset 1 du chapitre 1 de 1 Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Ici, lorsque la Bible dit Éphratien, cela nous laisse entendre que c'était un membre, chers amis, des Kéatites. Donc, il était apparenté aux Lévites. Cet homme appartenait aux Lévites. Donc, lorsqu'on parle d'Elkana, nous savons que nous parlons de quoi? D'un Lévite. C'est important pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. Nous savons que nous parlons d'un Lévite. La Bible dit, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne qui veut dire grâce, et l'autre Pénina. Pénina, chers amis, qui veut dire corail. Mm-hmm. Et ça continue, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Lorsqu'on analyse cette portion des Écritures, nous savons que à cette époque, les hommes se permettaient d'avoir deux femmes. Mais la Bible elle-même nous enseigne que Dieu lui-même, dans Genèse, j'ai pris le texte, Genèse 2 au verset 24, la Bible nous enseigne à ce propos. Et nous comprenons que normalement, si nous revenons à la création, tout homme doit avoir quoi? Une seule femme. Mais ici, les hommes vivaient selon la coutume. Et il y avait ce fameux code amourabique à cette époque qui autorisait l'homme, lorsqu'il ne pouvait pas avoir une descendance, qu'il pouvait se tourner vers une autre. Abraham l'a fait, nous avons quelques autres grands hommes qui l'ont fait. Mais cela ne veut pas dire que Dieu, chers amis, cautionne cela. Sommes-nous en phase? Sommes-nous en phase, chers amis. Maintenant, on peut comprendre que Anne était la première femme. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Donc, selon la culture de l'époque et la coutume, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter, il s'est permis d'aller chercher Pénina. Donc, imaginez la chose et nous vivons la scène. Nous disons qu'aujourd'hui, nous marions Anne et Elkana. Anne, Elkana est devant moi et Anne va passer la porte avec sa belle robe blanche, chers amis. Elle est belle, Anne. Elle traverse cette assemblée, elle monte cette allée. Elkana fait la moitié du chemin pour aller la chercher. Vous savez, lorsque les hommes vont chercher les femmes, en général, ils ont une belle démarche somptueuse, n'est-ce pas? Et je me rappelle lorsque je me suis marié, lorsqu'on m'a dit, ta femme est là, je suis parti comme ça. Donc le pasteur Darding était là, parce que c'est lui qui m'a marié. Ils ont dû m'appeler, il m'a dit, reviens, recommence, et vas-y doucement. D'accord? Parce que pour moi, c'est à moi. Le Seigneur me l'a donné, elle était toute belle, toute fraîche. Il fallait que je récupère mes affaires. D'accord? Donc il fallait que je prenne mes affaires. Et on m'a dit d'aller doucement. Comment ça? Lorsque vous avez fait, vous n'allez pas doucement. Vous allez vous manger. Ah, il fallait que je mange mes affaires. Non, quand je dis mange mes affaires, comprenez bien ce que je veux dire. Faites attention à vos pensées là. Faites attention à vos pensées là. Quoique cela fait partie de la chose aussi. D'accord? D'accord? Et jeunes, n'allez pas vous marier juste pour manger. Mariez-vous d'abord parce que vous aimez. Amen. D'accord. Donc on peut les imaginer là. On peut les imaginer venant. On peut les imaginer. On peut imaginer la joie d'Anne, chers amis. Cette joie qu'elle a de regarder Elkana. Cette joie qu'elle a de regarder le prêtre qui est en train de célébrer ce mariage. Cette joie qu'il y a dans son cœur. Waouh! J'ai l'homme de ma vie face à moi. Elkana. On peut imaginer la joie d'Elkana lorsqu'il regarde sa femme. On peut les imaginer partant. On peut imaginer Elkana qui dit dans son cœur. J'ai attendu tellement de temps. Ce soir, c'est le soir, mon ami. Il est temps qu'on finisse de manger. Il est temps que la fête se termine, car la noce doit suivre. Et puis, vous savez quoi? Lorsque la noce suit et qu'il passe la nuit à manger sa noce, il se rend compte que rien ne suit après. Pas d'enfant, pas de bébé. La chose commence à ronger. Maintenant, vient la coutume. Elkana se dit, je ne peux pas avoir de descendance. La culture me permet d'en avoir une autre. Sommes-nous en phase? Maintenant, je vais m'approcher d'un couple marié. Alors, mon bien-aimé, tu imagines que tu es marié avec elle, comment elle s'appelle?
Babette.
Elle n'est pas bête, Babette. Pas du tout. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Avec Babette, tu es marié. Et puis, voici que Babette ne peut pas enfanter. La culture ou la coutume t'autorise à prendre une seconde. Tu vas prendre la seconde. Dis-moi, comment va se sentir Babette qui n'est pas bête? Elle sera frustrée, mon ami. La chose sera, n'est-ce pas? Tu l'imagines, le soir, il rentre, il sort du travail, il te dit bonsoir, tu lui as fait un bon petit plat, et lorsque 9h arrive, il te dit, bonsoir, je vais dormir dans cette chambre ce soir. Tu peux déjà sentir la chose. Vous savez ce qu'elle a dit? Je vais le tuer. Donc, vous imaginez la chose, chers amis. Donc, maintenant, vous êtes dans la peau de Anne, chers amis. Vous êtes dans la peau de Anne qui s'est mariée à Elkana et qui ne peut pas avoir d'enfant. Mais là, je peux imaginer cette femme dans son angoisse. Parce que la Bible nous dit que, la Bible montre la joie d'Elkana parce que Pénina a enfanté. Lorsqu'on lit le texte, la joie d'Elkana est palpable, chers amis. Donc imaginez Anne. Imaginez Anne lorsque Elkana rentre et que Elkana va vers Pénina. Et puis, qu'elle entend les petits bruits bizarres qui se passent dans les chambres lorsque les couples sont ensemble. Et puis que, quelques mois plus tard, elle entend... Elle ne peut pas faire cela, chers amis. Et le pire, c'est que lorsque Elkana rentre à la maison, chers amis, Elkana sera content de voir son petit boy et puis va le prendre... Mettez-vous à la place d'Anne, chers amis. Mettez-vous à la place d'Anne, chers amis. Vous allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir inutile. À la limite même, vous auriez peut-être même envie de partir, chers amis. Vous aurez envie de tout laisser tomber, parce que vous allez vous sentir mal, chers amis. Anne, certainement, chers amis, était dans un état dépressif. Vous voyez ses enfants qui courent, vous voyez la joie de celui que vous aimez, à chaque fois qu'il regarde ses enfants. Vous voyez sa joie lorsqu'il regarde Pénina, parce que c'est elle qui lui a donné ses enfants. Vous voyez dans son regard, chers amis, il y a-t-il des pères dans la salle? Levez vos mains, tous ceux qui sont pères dans la salle. Lorsque vos enfants couraient, lorsqu'ils étaient petits, chers amis, c'était votre fierté, n'est-ce pas? Lorsque vous alliez dans un parc avec votre enfant, et qu'un autre parent vous disait, « Oh, c'est vous le père ?» Wow, hier soir je l'ai fait à quelqu'un. Et c'est vous le père? Wow, votre fille, elle est bien. Vous commencez à, ah oui, c'est ma fille, hein. Ah oui, elle est belle. Ah oui, ma fille, c'est la plus intelligente, elle va faire médecine. Elle fera médecine, ce sera un grand médecin devant l'Éternel. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous ne direz jamais que votre enfant est bête. Vous ne direz jamais ce genre de choses. Vous allez toujours la faire passer pour un enfant surdoué. Même si à la maison, vous en... Ok. Ok. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis? Je veux que vous viviez la chose. Que vous soyez dans la peau d'âne ce soir. Que vous soyez cette femme malheureuse. Mais la Bible continue, chers amis. La Bible nous dit, chaque année, cet homme... On parle d'Elkana, mais on voit que la Bible dit cet homme. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. C'est là que la chose devient intéressante. Je vous ai dit que Elkana était de quelle tribu? Un Lévite, chers amis. Chaque année, il monte se prosterner. Le Lévite, l'homme respecté dans la tribu d'Israël, monte et puis il va faire quoi? Se prosterner devant l'Éternel. Sommes-nous en face, chers amis. Il monte, il va se prosterner devant l'Éternel. Il va faire son sacrifice d'action de grâce devant l'Éternel, chers amis, avec ses deux femmes. Et il monte à cet endroit. La Bible dit encore, il se trouvait les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. À Pénina, il donnait une portion à Pénina, sa femme, et tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Parce que c'était de rigueur. On continue, la Bible dit, mais il donnait quoi? Une double portion. À qui? Car il aimait Anne. J'ai un problème avec ça, chers amis. Nous avons affaire à quoi? À un Lévite. Nous avons affaire avec quelqu'un que Dieu a mis à part. Nous avons affaire à quelqu'un de la lignée des hommes qui ont été mis à part par le Seigneur. Des hommes respectés dans la tribu du Seigneur. Sommes-nous en face, chers amis? Maintenant, la Bible nous dit qu'il l'aimait. J'ai une question. Y a-t-il un autre couple marié? Je vais arrêter d'embêter ce couple-là. Y a-t-il un autre couple marié ici? Tu es marié? J'allais dire, te demander est-ce que tu es marié. Ok. Bon, ben, je reviens à vous. Tant pis pour vous. Je reviens à vous. Dis-moi, après qu'il ait passé sa nuit avec Pénina, que tu as entendu des bruits bizarres, que après tu vois des enfants arriver, que tu vois tout ce genre de choses, il vient devant toi alors que vous allez à l'église. Et à l'église, bien sûr, c'est l'homme pieux, n'est-ce pas? Fais attention à ce que tu dis là, tout le monde te regarde. À l'église, c'est l'homme pieux. Et puis il te dit, je t'aime. Comment tu vas voir ça? Il te dit, je t'aime. Non, mais c'est quoi le délire là, mes amis? C'est quoi le délire là, mes amis? Permettez-moi de vous dire une chose. Lorsque vous aimez quelqu'un, et je fais un point pour la famille là maintenant. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous chérissez cette personne, n'est-ce pas? Lorsque vous aimez quelqu'un, vous lui voulez du bien, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous aimez quelqu'un, si la personne a un problème, vous avez le problème aussi, n'est-ce pas? Donc, vous vivez le problème avec la personne, n'est-ce pas? Sommes-nous en face, chers amis? La personne ne peut pas avoir d'enfant, donc vous aussi, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, n'est-ce pas, mon ami? N'est-ce pas, mon ami? Heureusement que ta femme n'est pas là ce soir. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis? Lorsque nous sommes mariés, nous formons un, chers amis. Donc, si un a un problème dans le couple, les deux ont le problème, chers amis. Si un est faible, l'autre est faible. Si un est fort, les deux sont forts, chers amis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que lorsque nous sommes en couple, nous fonctionnons ensemble. Mais voici l'homme de Dieu, le Lévite qui monte se prosterner devant le Seigneur. Chers amis, monte avec quoi? Ces deux femmes. C'était autorisé à l'époque, ok? Mais Dieu, rappelez-vous, ne rentre pas dans cette affaire, chers amis. Parce que, à la Genèse, il n'a pas fait Adam, Ève et Maria. Sommes-nous en phase? Il n'a pas fait Adam, Ève et Maria. Et il n'a pas fait non plus Adam, Ève et Steve. Ou bien il n'a pas fait Adam et Steve. Sommes-nous en phase, chers amis? Ou bien il n'a pas fait Ève et Ève. Il a fait Adam et Ève. Il nous donne l'exemple dès le commencement, chers amis. Maintenant, comme de juste, l'homme pense qu'il a la science infuse et se permet d'être un Dieu pour Dieu. Mais bref, maintenant continuons. Donc on se rend compte que il se passe quelque chose ici. Mais voici la chose la plus importante. On va reprendre le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'est chaud, chers amis. Il aimait Anne, que qui avait rendu stérile? Les Juifs avaient une habitude de dire que le bien ou le mal, que ce soit le bien, que ce soit le mal, ça vient de l'Éternel. Maintenant, vous avez une femme ici qui est déjà par terre parce qu'elle ne comprend pas le fait qu'elle ne puisse donner des enfants à son mari. Des fois, même par amour, elle tolère que son mari puisse passer ses nuits avec une autre parce qu'elle voit la joie qu'il a d'avoir des enfants. Elle fait le sacrifice, chers amis. Mais voici que, en plus de ça, on lui dit, vous savez ce fameux « on ». Vous connaissez on? Vous connaissez on? Moi, je ne le connais pas. Donc, ne venez pas me dire on m'a dit. Parce que je ne connais pas on. Mais on dit quoi? On lui dit quoi? C'est Dieu qui t'a mis stérile. Donc, la personne est déjà dépressive. La personne se sent déjà comme une moins que rien. Vous venez, vous lui dites encore, c'est Dieu qui a voulu cela. Donc, la personne va se dire, mais ce Dieu m'a maudit. Qu'ai-je fait à ce Dieu? Je t'ai toujours adoré. J'ai toujours marché droit. J'ai toujours fait ce qu'il fallait. Regarde, c'est la fête. Je monte et je vais adorer avec mon mari. Je monte et je vais t'adorer dans ton temple. Je me prosterne devant toi. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter cela, chers amis? Mais regardez encore, on continue. La Bible dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Vous vous rendez compte? L'autre femme la poussait à bout qu'elle soit en colère contre Dieu. Là, on la poussait tellement à bout, chers amis, que sa colère se portait à l'encontre du Dieu vivant, chers amis. Est-ce que nous sommes en phase? Est-ce que nous sommes en phase, chers amis? Parce que suivez-moi bien. On continue la lecture. Verset 7. Toutes les années, il en était ainsi, chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, chers amis. Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle faisait quoi? Elle pleurait et ne mangeait point. Ça, c'est un signe d'angoisse. Lorsque quelque chose vous a touché, chers amis, vous n'avez même plus la force de manger. La boule ici est tellement énorme que rien ne rentre, chers amis. Vous n'avez pas faim. Vous vous laissez mourir, comme m'a dit une bien-aimée hier ou avant-hier. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas, chers amis. Donc les doubles portions que lui donne Elkana ne servent à rien, chers amis. Parce qu'elle a un problème. Et elle est arrivée à penser que Dieu cautionne cela. Sommes-nous en face, chers amis? On continue. On va au verset 10, là où Anne est partie prier. Et l'amertume dans l'âme, elle prie à l'Éternel et versa des pleurs. Maintenant, avez-vous porté attention au mot amertume ici? C'est quoi l'amertume? Je vous pose la question. C'est quoi l'amertume, chers amis? Je vous ai déjà dit, lorsque vous ne savez pas, vous faites comme Wilfried Pavila. Vous allez dans votre bibliothèque, vous prenez votre dictionnaire et vous cherchez. Point, c'est pas compliqué. Ou bien vous allez en ligne, quand vous avez Internet, et vous cherchez. Voilà ce que me dit un dictionnaire en ligne. Mélange de colère, de révolte et de tristesse à l'égard de souffrance qu'on a vécue comme étant injuste. Sommes-nous en phase? Alors je le relis. Mélange de colère et de révolte et de tristesse à l'égard de souffrance qu'on a vécue comme étant injuste. Maintenant vous comprenez que cette femme vivait cela comme étant une injustice. Donc lorsqu'elle est montée pour prier Dieu et qu'elle pleurait dans la prière, je n'ose imaginer, chers amis, comment elle se sentait. Lorsqu'elle parlait à Dieu, chers amis, elle était en train de penser au fait que Dieu est un Dieu injuste parce que Dieu lui a fait cela. Combien d'entre nous, chers amis, aujourd'hui, combien parmi nous aujourd'hui ont déjà vécu cela? Moi, je l'ai vécu il y a à peine 2 ou 3 mois. Il y a à peine 2 ou 3 mois, je me suis retrouvé dans une situation. La situation était tellement chaude, chers amis, que j'ai commencé à philosopher avec Dieu. J'ai commencé à lui poser les grandes questions profondes. Parce que tu dis que tu es constant. Parce que tu dis que tu es infini. Parce que tu dis ceci. Parce que tu dis cela. Comment se fait-il que moi, je suis comme ça? Si tu étais si constant, je ne serais pas comme cela. Parce que moi, pour le moment, je ne te vois pas comme un Dieu constant. Je te vois plus comme un Dieu qui tire parti. J'ai besoin de toi, je te prends, je t'utilise pour mon œuvre. Mais la personne, moi, je suis en souffrance. Toi, tu es content parce que ton œuvre avance. Mais moi, je suis en souffrance. Tu es où lorsque je pleure, Dieu? J'ai vécu ça il y a à peine 3 ou 4 mois. Ton œuvre avance. Oh, il étudie la théologie. Ouh. Yeah, il prêche, des âmes se donnent au Seigneur. Alléluia. Mais Seigneur, ma vie, c'est un problème. Yep. Donc, tes affaires avancent parce qu'il prêche. Tes affaires avancent parce qu'il est en train de prendre des outils afin d'être un meilleur prédicateur demain. Tes affaires avancent parce que demain, il se prépare à être un pasteur pour diriger ton église. Tes affaires avancent, Seigneur. Mais les miennes stagnent. Je marche dans une boueuse. Je dois des milliers de dollars à l'école. Tu fais quoi? Yep. Et je voulais laisser l'école. Je voulais abandonner cela, chers amis. Finir avec ça. Yep. Tu es venu me chercher. Je ne t'ai pas dit non. J'ai marché avec toi. Jusqu'au bout, j'ai marché avec toi. Ma femme crève de faim. Tu fais quoi? Mais à chaque fois que j'ai fini, tu viens. Oh, Wilfried, j'ai une campagne d'évangélisation, il faut que tu y ailles là. Hein. Il faut que tu ailles faire 1 mois là-bas. Lorsque tu auras fini, il faudra que tu ailles par là. Lorsque tu auras fini, il faudra que tu ailles par là. Et laissez-moi vous dire le plus beau. Laissez-moi vous dire le plus beau. Et tu vas utiliser ta voiture. Hein? Tu vas utiliser ta voiture. Mais la voiture, ça prend de l'essence. Il faut l'entretenir. Il faut faire toutes ces choses. Mais il ne faut pas que tu prêches pour de l'argent. Comme nous en face. Donc, les affaires de Dieu avancent. Et puis moi, je suis dans une eau boueuse. Je l'ai vécu, chers amis. Combien sont comme ça ce soir, chers amis? Combien sont comme ça ce soir, chers amis? J'étais à ça, mes amis, de dire au Seigneur, garde les bougons. Pour ceux qui ne comprennent pas, garde tes affaires pour toi-même. Je n'en veux plus. Je retourne à mon ancien travail et je vais mener ma vie, Seigneur. Parce que tes affaires avancent et moi, les miennes n'avancent pas. Cette prière qu'a faite Pénina, son ressenti était le mien. J'avais ce ressenti, chers amis. Cette amertume, cette colère, mélangée à ce sentiment de révolte, mélangée à ce sentiment de tristesse à l'égard de la souffrance que j'éprouvais, chers amis. À l'égard de cette souffrance que j'ai vécue, chers amis. Et je le ressentais comme étant injuste. Parce que je sers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Yeah. Je ne suis pas le seul comme ça ici ce soir, et j'en suis sûr. Je n'étais pas le seul comme cela, je devrais dire. Maintenant, l'histoire continue. Voilà où je trouve que cette femme a des qualités énormes. Voilà où je trouve que cette femme, chers amis, et quelqu'un qui a de la vision. Elle dit, elle fit un vœu, nous dit la Bible, en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, parce qu'elle pense que Dieu lui avait déjà donné son dos. Donc si tu daignes, Seigneur, regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de cette femme appelée Anne et de sa souffrance. Si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant, mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle a précisé encore un enfant mâle. Vous savez pourquoi? Parce que le premier enfant mâle ou l'enfant qui était né de la première épouse, c'est lui qui héritait de tout ce que le mari avait, chers amis. Sommes-nous en phase? Donc, on comprend qu'elle voulait retrouver son honneur. Elle voulait récupérer cet honneur perdu, cet honneur bafoué. Mais regardez la chose, chers amis. Cette femme est en souffrance. Elle demande à Dieu un enfant. Et puis elle lui dit, je vais te le donner. Je vais te le donner. C'est là où je trouve que cette femme a une qualité énorme. Parce qu'à aucun moment, ça ne me serait passé à l'esprit. J'aurais voulu mes affaires pour moi. Comme tu t'es déjà servi. Maintenant, tu vas me donner quelque chose pour moi. Mais elle dit, non, Seigneur. Seigneur, écoute. Dans toute mon affliction, dans toute mon amertume, donne-moi un fils. Elle précise, donne-moi un fils. Et tu sais quoi, Seigneur? Je vais te le consacrer. Je le mettrai à part pour toi. Je prendrai le temps de l'élever afin de l'emmener pour toi, Seigneur. Que tu aies un outil puissant entre tes mains. Dans toute sa douleur, voilà la prière de cette femme. Le plus beau, le plus beau, le plus beau, le plus beau. Regardez le plus beau. Verset 17. Élie a pris la parole et dit, non, même pas là, je n'ai pas, ah ouais. Anne parlait, verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Vous vous rendez compte? Vous êtes déjà dans la douleur, vous êtes déjà par terre, vous êtes déjà dans la dépression. On vous dit que Dieu vous a maudit. Le prêtre lui-même, lorsqu'il vous regarde, vous prend pour un soulard. Waouh! Il y a combien d'Anne ici ce soir, chers amis? Il y en a plein ici ce soir. Quelquefois, chers amis, permettez-moi de faire un point ici. Nous manquons de tact. Nous sommes comme Élie. Sous prétexte que nous servons l'Éternel, nous pensons que nous avons la science infuse. Nous ne prenons pas le temps d'analyser une situation parce que nous avons la science infuse. Et puis nous arrivons déjà avec une réponse toute faite. Et nous blessons la personne en face de nous. Nous la mettons plus bas que terre, chers amis. Nous l'écrasons parce que nous pensons avoir la science infuse. Le Seigneur est avec moi. J'ai la sagesse ultime. Ma soeur, mon frère, je pense que... Tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Il aurait mieux fait de la fermer. Ou encore de s'approcher de ça, ou encore de changer son approche. Mais voici, chers amis, cette femme put parler à Élie. Et au verset 17, Élie reprit la parole et dit, Dieu soit loué, il s'est rattrapé. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce sa prière, la prière que tu lui adresses. Elle dit, verset 18, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. C'est là mon point ce soir, chers amis. C'est là mon point ce soir, chers amis. Elle n'a pas encore eu l'enfant. Elle n'a pas encore vu. Elle n'a même pas encore couché avec son mari, histoire de concevoir cet enfant, chers amis. Mais la Bible nous dit que lorsqu'elle sortit de là, cette femme angoissée, qui avait cette boule ici, qui ne pouvait plus manger, a mangé. Cette femme angoissée, chers amis, son visage était différent. Ça veut dire que la raillerie était toujours là avec Pénina, mais ça ne la touchait plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a placé sa foi dans le Dieu d'Israël. Elle a placé sa foi dans le Dieu d'Israël, chers amis. Aujourd'hui, je suis ici vous prêchant cet évangile, taquinant certains, riant avec d'autres. Bien que mon problème soit toujours là. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai placé ma foi dans le Dieu d'Israël. J'ai placé toute ma foi dans le Dieu d'Israël, chers amis. Yeah! Le visage de Pénina a changé. Le problème n'est pas encore réglé. Exactement comme moi. Mais elle pouvait manger. Elle pouvait sourire, chers amis. Elle vivait parce qu'elle s'est dit, j'ai prié avec la foi. Le serviteur du Seigneur lui-même m'a dit que Dieu va m'exaucer. Alors je crois que le Seigneur agira. Je le crois fermement. Combien de fois nous chantons à la chorale, je sais qui agira. Oui. Et puis on voit même des filles pleurer. On voit ça dans les chorales. Quand elles commencent à chanter, il agira. Elles ont peut-être un petit problème dans la semaine. Peut-être que le copain leur a mal parlé le matin. L'émotion monte. L'émotion monte et puis elles commencent à pleurer. Mais vous savez ce qu'il y a de plus triste? c'est qu'elles n'en croient pas un mot. Elles n'ont aucune foi dans ce qu'elles sont en train de chanter. Parce que si après vous allez les voir dans la sacristie et vous lui dites, t'inquiète pas, il agira, elles vont mettre un mais derrière. Anne n'a mis aucun mais derrière. Elle est repartie, elle a mangé. Et elle était dans la joie, chers amis. Elle était dans la joie, chers amis. Elle a eu la foi en la prière, chers amis, qu'elle a fait monter vers l'Éternel. Elle a eu la foi en ce Dieu, chers amis. La Bible nous dit, au verset 20, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Amen. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Maintenant, j'ai un problème. Et c'est pour ça que j'ai fait le point sur Elkana au départ. Comme je vous ai dit que c'était un Lévite, c'était l'homme, la Bible nous dit, il monte se prosterner devant l'Éternel. Mais Elkana était vide. Tu as une femme en souffrance. Tu n'as jamais pris le temps de te mettre à genoux et de faire cette prière avec elle. Demandez au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi cette matrice. Fais quelque chose. Bouge ça pour moi, Seigneur. Donne-moi cet enfant. Il a fallu que Anne se débrouille par elle-même alors que son mari est un Lévite. Non, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris ce que j'ai dit là. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris ce que j'ai dit là. Laissez-moi mettre ça. Je ne dis pas que les pasteurs sont des Lévites. Hein, n'allez pas me confondre. Mais laissez-moi faire la chose. Vous imaginez, je suis pasteur. Vous imaginez, je suis pasteur. Hein, j'ai ma femme. Ma femme est en souffrance. Je m'occupe des affaires de toute l'église, mais ma femme meurt. Elle est obligée de prier pour elle-même tous les soirs. Elle est obligée d'aller consulter d'autres personnes. Elle est obligée d'aller faire des séances de comment on dit ça en français, counseling. Des séances de relations, d'aide, pour que quelqu'un puisse l'aider. Et puis moi, je suis pasteur, j'aide mon frère, j'aide ma soeur. Tout le monde est content. Oh, pasteur Pavila, pasteur Pavila. Si tu savais ce que le pasteur Pavila a fait pour moi. Oh, le pasteur, il est bon. Ah ouais, je te dis ça, franchement, je lui ai raconté mon problème. En 2 jours, je me sentais déjà beaucoup mieux. Et sa femme crève à la maison. Voilà le type de bonhomme que nous avions là, chers amis. By the way, ancien d'église, Jack consacré ici présent, dirigeant d'église, j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire ici. Bien souvent, nous aimons, lorsque nous parlons de l'œuvre, l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur m'appelle pour son œuvre et nous négligeons nos femmes. Nous négligeons nos enfants, nous négligeons notre foyer. Notre foyer est brisé. Et puis lorsque nous venons le samedi à l'église, nous nous asseyons à côté de notre épouse. Elle affiche un sourire. Vous savez pourquoi? Elle est comme Anne, juste parce qu'elle vous aime et qu'elle n'a pas envie que vous ayez honte devant l'assemblée du Seigneur. Juste pour ça, chers amis, parce qu'elle vous aime. Elle n'a pas envie que vous ayez honte, elle n'a pas envie de vous écraser devant l'assemblée du Seigneur. Elle va sourire pour vous donner la force. Mais laissez-moi vous dire une chose, chers amis. Réformez vos voix. Dieu vous a donné des enfants, chers amis. Élevez-les. Dieu vous a donné une épouse. Prenez soin de votre épouse. Yep. Vous avez une famille. Et vous savez quoi? Je vais vous dire la plus belle. Est-ce que vous savez que normalement votre première église est votre famille? Votre foyer? Donc lorsque vous dites à vos épouses, l'œuvre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous pensez que Dieu est un Dieu si inconstant qu'il va vous permettre de maintenir une église et que votre famille prenne de l'eau? Non, chers amis. Le Dieu que je sers est un Dieu constant, chers amis. C'est un Dieu qui est équilibré dans tout ce qu'il fait. Arrêtez de vous cacher derrière l'œuvre pour fuir vos responsabilités. C'est exactement ce que Elkana a fait ici. Se cacher derrière l'œuvre pour fuir ses responsabilités. Mais il a une responsabilité. Sa responsabilité était que ce que Anne a fait pour elle-même. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que je ne dis pas qu'il l'a négligé, la Bible dit qu'il l'aimait. Mais quel amour. Tu l'aimes, mais tu vas ailleurs. Bref, la Bible dit qu'il l'aimait. Mais une fois que l'œuf a pris, j'imagine le sourire qu'il a dû afficher. Lorsqu'il a vu le ventre de Pénine, de Anne commencer à monter, je peux imaginer déjà le sourire qu'il affichait sur son visage. Surtout lorsqu'il a entendu que c'est un enfant mâle. Waouh! Et regardez la chose, regardez la chose, regardez comment Anne est forte. Parce que maintenant, il faut parler à Elkana. Elkana est dans la joie, j'ai un fils. Mais maintenant, il faut dire à Elkana, Elkana, laisse-moi te dire une chose, tu vas calmer ta joie. Parce que cet enfant appartient à l'Éternel. tu vas calmer ta joie parce que cet enfant appartient à l'Éternel. Puisqu'on le voit déjà qui dit, montons adorer l'Éternel. Et Anne qui lui dit, non, je ne vais nulle part. Je vais prendre soin de cet enfant et une fois que cet enfant sera sevré, je l'emmènerai à l'Éternel. Et maintenant, tu vas fermer ta bouche et tu vas faire les choses comme elles doivent se faire. Tu as été absent tout ce temps. Je t'ai vu prendre ton pied avec l'autre. Hein? Tu as pris ton pied. Hein? J'entendais comment tu prenais ton pied avec l'autre. Hein? Je voyais tes glouchements. Eh bien, maintenant, tu sais quoi? Tu vas t'asseoir, tu vas la fermer. On va faire les choses correctement. Tu vas assumer ton rôle en tant que prêtre. Now! Cet enfant appartient à l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire le plus beau. Laissez-moi vous donner le plus beau. Le plus beau, maintenant, c'est Pénina. Pénina qui se croyait au-dessus de tout le monde. Pénina qui se croyait tout permise. Pénina qui se croyait la reine. Retourne à sa place. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël, chers amis, n'est pas le Dieu qui maudit ses enfants. Le Dieu d'Israël, chers amis, est le Dieu qui entend ses enfants lorsqu'ils sont dans la douleur. Le Dieu d'Israël, chers amis, c'est le Dieu qui relève ses enfants lorsque ses enfants sont par terre, chers amis. Donc, certainement nous sommes comme Anne ce soir. Certainement nous sommes par terre ce soir. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit? Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui aime ses enfants. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui relève ses enfants. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui aime être présent lorsque ses enfants sont par terre. Yep! Et même si ceux sur lesquels on compte sont absents au moment où nous avons le plus besoin d'eux, Dieu lui demeure présent. Dieu lui demeure présent, chers amis. Mais une chose compte, la foi. La foi, chers amis. Gardons la foi dans le Seigneur. Et vous verrez, chers amis, nous pourrons vivre ce que Pénina a vécu ici, dans notre dépression. Voir Dieu venir nous chercher, après avoir prié et placé notre foi dans le Seigneur. Agir comme si nous avions déjà la chose, chers amis. Notre visage change, le sourire s'affiche. Nous ne sommes plus angoissés. C'est à ce moment-là qu'on veut manger un bœuf. Pardon. Pour les végétariens, c'est à ce moment-là qu'on veut manger un sac d'herbe. J'ai dit un bœuf. Je ne veux pas ces personnes. Vous comprenez ce que je dis? Non, on va dire, c'est à ce moment-là qu'on veut manger une tarte adventiste. Ok? Donc, chers amis, vous comprenez ce que je suis en train de dire ce soir, chers amis. Dans votre douleur, dans votre malheur, Dieu est prêt à vous relever. Mais vous, êtes-vous prêt déjà pour vous-même? Telle Anne, priez déjà pour vous-même. Afin que Dieu puisse faire le nécessaire dans votre vie. Laissez-moi vous dire une chose et je vais m'arrêter là. Laissez-moi vous dire une chose simple. C'est encore plus dur lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie. Et puis qu'on voit que on avait la vie de château avant. Comme moi par exemple. On avait la vie de château, chers amis. Vite château, villa par-ci, appartement par-là, moto par-ci, voiture par-là, évidemment, puisqu'on faisait des choses pas bien. D'accord? On était quelqu'un respecté dans un certain milieu. Lorsqu'on nous voit, lorsqu'on arrivait en club, chers amis, ils disaient, ouh, monsieur qui est là? Oh, c'est ce mec qui est là? Ok. Lorsque vous faisiez la queue pour payer, lui, il passe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis? Ça, c'est quelque chose. Et puis, vient le moment où vous acceptez Dieu, chers amis. Lorsque vous acceptez Dieu, Dieu est inimitié avec le péché. Sommes-nous en face, mon bien-aimé. Parce qu'il est inimitié avec le péché, sachez bien une chose, vous avez un choix à faire. Et moi, j'ai fait le choix de marcher avec le Seigneur. Je vous dis ça, mais ça n'a pas été facile, hein, mais il faut aller vite. J'ai fait le choix de marcher avec le Seigneur. Lorsque j'ai fait le choix de marcher avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les poches sont crevées. Aïe! Yeah! C'est fini tous ces beaux billets verts qui traînaient, qui tombaient de la pharmacie, de la salle de bain, lorsqu'on ouvrait la pharmacie. C'est fini ça. Les poches sont crevées. On perd tout ce qu'on a parce qu'on ne peut plus s'en occuper. Au final, on se retrouve dans un appartement minable. Il n'y a même pas un fauteuil, rien dedans. Juste une pièce et une grosse télé et puis une piscine pour dormir dedans. Vous savez quoi, l'espèce de piscine gonflable, vous les gonflez, tu, tu, tu. Heureusement que j'avais acheté ça pour mes filles, du temps que j'avais encore un peu d'argent. Et puis tout le monde dedans. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Tout le monde dedans, on y va. Donc des fois, j'étais obligé de faire des sacrifices, j'étais obligé de prendre le carreau froid. Parce qu'on avait déjà deux. Donc, dans la piscine, il fallait qu'il y ait la mère, puisqu'elle allait, et puis la plus grande. Donc, je prends le cas au foie. Yep, à la dure. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que lorsque vous êtes couché sur ce cas au foie, que vous réalisez que vous avez un lit sur 2,50 m sur 3 mètres, que vous réalisiez que le matelas était le plus cher sur le marché, anti-acarien, toute qualité baille. Que vous réalisez que, oh frère, tu es sur le carreau glacé là, mon ami. Tu n'as même pas un drap. Vous réalisez que vos chaussures sont crevées de partout. Parce que vous n'avez plus les moyens. Avant, on achetait des paires de chaussures à 200 euros. Là maintenant, 10 euros, si on trouve un, c'est bon. Ça ne fait pas deux jours. Yep. Vous rigolez. Mais c'est mon histoire. Je me suis retrouvé à aller à l'église avec une paire de... C'était pas vraiment des claquettes ou des sandalettes, mais c'était un truc à la mode aux Antilles avec des espèces de lacets. Et puis, vous savez quoi? Je vais vous dire le plus beau. C'est que lorsque je suis arrivé à l'église avec ça, un frère ne m'a pas demandé comment je vais, ni si j'ai à manger. Il est venu et il m'a dit, mon frère, il y a une façon de venir à l'église. Tu ne peux pas te permettre de venir à l'église avec ça. Yeah. Un autre m'a rencontré. Celui-là m'a donné ça. Ça, c'était pour arriver. J'ai garé la voiture. Ça, c'était la bienvenue. Maintenant, il y a « Prends place, mon frère ». Le « Prends place, mon frère », c'était « Mais mon frère, mais quelle chemise tu as mis sur ?» Maintenant, mon frère, il faut donner le meilleur au Seigneur. Aujourd'hui, c'est sabbat. Comment tu as fait les choses là? Yep. Ça était ma bienvenue dans mon église, chers amis. Mais vous savez, le plus beau n'est pas cela. Parce que des larmes, j'en ai versé. Yep. Comme un bébé sur mon balcon. Lorsque j'ouvrais la porte du réfrigérateur et qu'il n'y avait rien dedans. Alors que lorsque mon épouse allait faire des courses du temps où j'étais pour moi quelqu'un, lorsqu'elle allait faire des courses, elle ne savait même pas quoi prendre. Donc vous savez ce qu'elle faisait? Elle prenait un caddie et puis elle prenait chaque chose dans un rayon. Yep! Puisqu'elle n'a pas besoin de compter à arriver à la caisse. Elle n'avait pas besoin de compter. Lorsqu'elle arrivait à la caisse, on lui disait ça fait 500 euros, elle donnait les 500 euros, puis terminé. On lui disait ça fait 400 euros, elle donnait les 400 euros, puis terminé. Comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis? Mais là, il n'y avait plus ça. Et lorsque l'épouse ouvre la porte du réfrigérateur et qu'elle dit, chérie, le réfrigérateur est vide. Vous disiez, eh ben, ma soeur, nous allons prier. Vous dites ça parce que vous êtes l'homme. Mais une fois qu'elle a tourné son dos, vous pleurez comme un enfant, frère. Vous savez pourquoi? Parce que justement, vous êtes l'homme. Vous n'êtes pas comme Elkana. Vous êtes l'homme. Et vous voulez prendre vos responsabilités. Vous pleurez comme un enfant. Je pleurais comme un bébé. Mais il y a une chose admirable, c'est que j'ai vécu l'expérience de cette femme, Anne. J'ai tenu bon. J'ai tenu bon, chers amis. J'ai tenu bon, chers amis. J'ai tenu bon, chers amis. On n'avait pas d'argent, mais on a tenu bon, chers amis. On n'avait pas d'argent, on n'était pas les plus riches, mais on était les plus heureux, chers amis. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire ce soir? Parce que, chers amis, nous avions placé notre foi dans le Dieu d'Israël, chers amis. Dans le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avions placé notre foi en lui. Et nous savions qu'il était en train de nous former pour une œuvre plus grande. Donc nous avons fermé notre bouche et nous avons avancé avec lui. Le pire dans tout ça, c'est que nous n'avons rien à manger. Mais il savait être là qu'il fallait nous donner une mission. Et on l'exécutait, chers amis. Le ventre vide. Mais on l'exécutait, chers amis. Et vous serez surpris de savoir le nombre de prédicateurs laïcs qui tournent dans le monde et qui prêchent l'évangile et qui n'ont rien. Vous les voyez avec leurs beaux costumes, ils prêchent l'évangile, vous les voyez beaux pour vous. Wow, comme une enfant m'a dit samedi dernier, je vois un homme qui a réussi sa vie. Ma fille, si c'était une prophétie, je prends. Yeah! Je ne suis pas le seul comme cela. C'est triste à dire, mais je ne suis pas là. La plupart de mes amis qui sont des prédicateurs itinérants, qui prêchent à droite, à gauche, ce sont des bonhommes, chers amis. Ils prêchent l'évangile, ils sont contents lorsqu'ils sont sur l'estrade et lorsqu'ils arrivent chez eux, chers amis. Waouh, ils n'ont rien à manger. Mais ils vivent cette chose tellement, avec tellement de foi, que Dieu sait les honorer en temps. Attends. Yeah. Yeah. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Pour étudier à Trinidad 5 ans, il vous faut au moins 40 000 euros. Je n'avais pas un euro avant de partir. Aujourd'hui, j'ai terminé. Ça, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu que je sers, qui est capable de faire cela, chers amis. Je n'avais pas un euro aujourd'hui, j'ai terminé, chers amis. J'ai terminé avec les honneurs. Yep. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire lorsque nous plaçons notre foi dans ce Dieu d'Israël. Il est tellement facile de rester dans notre petite dépression. Oh Seigneur. Il est tellement facile de garder la tête baissée dans la poussière, chers amis. Lorsque Dieu nous invite à élever nos yeux vers le ciel, à placer notre confiance en lui et à marcher avec lui, chers amis. Quelquefois, nous ne comprenons pas. Parce que je ne comprenais pas. Et jusqu'à présent, je ne comprends pas. Yep, tu me fais faire tout ça, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'issue. Seigneur, mais où veux-tu aller? Mais avec le temps, j'ai appris à faire comme Jérémie. Zip la bouche et avancer avec le Seigneur. Avancer à l'aveugle avec lui, chers amis. Et c'est souvent après qu'on dit, ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Comme dirait mon ami Charles de Foix, alléluia, il m'a fait du bien. Dieu est bon, chers amis. Ce soir, et je m'arrête là. On avait plus à dire, mais on va arrêter là. Parce que l'heure est avancée. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer par cela ce soir. Son expérience n'est peut-être pas la même expérience que moi. Ton expérience est peut-être différente, mais j'ai envie de te dire ce soir, es-tu prêt à placer ta confiance en Dieu? Es-tu prêt, chez mon ami, à prendre la main du Seigneur comme je l'ai fait, même si c'est difficile, même s'il y a des pleurs? Car, mon ami, il n'y a rien sans sacrifice. Nous devons accepter de perdre pour gagner. Sommes-nous en face, chers amis? Nous devons accepter de perdre pour gagner. Mais après, lorsqu'on a mûri, on va réaliser qu'on n'a rien perdu du tout. Parce que tout cela n'était qu'une illusion placée par l'ennemi devant nos yeux. Parce que aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je dis plus jamais ça. Lorsque je vois des amis, puisque ce sont encore mes amis, qui passent avec leur grosse voiture, jeune par 18, la grosse musique dedans, petit ou noir brillant, la sono, et puis qu'ils s'arrêtent à côté de moi. Hey man, comment tu vas? Je leur dis, ça va. Au fond de moi, dans ma vieille Toyota, je me dis, merci Seigneur pour ma Toyota. Parce que ce bonhomme est perdu, aveuglé, fou. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis? Les biens de ce monde, mes amis, n'emmènent nulle part. Donc dans notre tristesse, le plus souvent qui sont dus aux biens de ce monde, ma bien-aimée. On regarde l'autre à sa BMW, puis nous on n'a pas. On prend le métro. On est fatigué, il fait froid, moins 2, moins 3, moins 10. Il faut se réveiller, marcher 1,5 km pour trouver une bouche de métro. Lorsqu'on prend la bouche de métro, on est bien un petit moment, et puis après, il faut prendre ce vent froid. Vous savez, lorsque la porte s'ouvre, bouche. La bouffée d'air. Ça réveille, ça, le matin. Hein? Yeah. Puis l'autre, il est dans sa voiture, tranquille, ça vite monté. Et puis on le regarde, on se dit, waouh, pourquoi pas moi? Et on commence à convoiter sur les affaires du prochain. Laissez-moi vous dire une chose, chers amis. Contentez-vous de ce que vous avez. Mettez Dieu dans votre vie. Donnez-lui la première place. Et puis faites comme Anne, chers amis. Faites comme Anne, chers amis. Une fois que vous avez prié et que vous avez présenté cette situation au Seigneur, levez-vous, allez manger, allez boire, mettez un visage souriant, avancez, car votre Dieu a déjà répondu. Amen. Amen, amen, chers amis. Amen, chers amis. Votre Dieu a déjà répondu, chers amis. Ce soir, je ne veux voir personne sortir de cette église triste. Je ne veux voir personne sortir de cette église avec ses problèmes. Parce que nous allons prier pour ça ce soir, chers amis. Chaque personne qui sortira d'ici motivée, chers amis. Mais surtout, avec la foi en Dieu. Voulez-vous vivre cette expérience? Alors je vous invite à vous lever. Alors que le pasteur Darding me rejoint. Je vous invite à vous lever alors que le pasteur Darding me rejoint. Je vous invite à vous lever alors que le pasteur Darding me rejoint. Je vous invite à vous lever. Pasteur Darding est demandé. Le pasteur Darding est demandé. Donc, chers amis, comprenez bien une chose. Je sais que ce n'est pas facile. Dernièrement, je parlais avec pasteur Darding. On était en train de rouler. On était sur la route. Et notre discussion était sur le fait qu'on a réalisé qu'il y a beaucoup de gens ici, lorsqu'on les regarde, on les sent stressés, on les sent malades, on les sent pas bien dans leur tête. Et nous avons compris que cette ville a une pression. Lorsque vous regardez des gens qui sortent, qui vont manger dans des cafés, qui font toutes ces choses et que vous n'avez pas un rond, je peux comprendre que ça soit difficile. Je peux comprendre que la vie ici soit difficile. La vie aux Antilles, c'est encore plus cher. Vous savez ça? Une boisson dans ça coûte 4 euros. Méditez en l'œil. Réfléchissez dessus, chers amis. Et donc, quand vous êtes comme moi et que votre poche est crevée, je vous laisse sentir la douleur. Je vous laisse sentir la douleur. Donc, chers amis, comprenez bien une chose. Mais ce qui fait que la joie est dans mon cœur, c'est que j'ai placé ma foi en Dieu. Et je sais que Dieu agira. Quelquefois, on pense savoir ce qui est bon pour nous. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Quelquefois, il y a tellement de choses qu'on aimerait faire. Et puis, on voit qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Mais on garde, gardons notre sang-froid. Le Seigneur fera quelque chose. Des fois, ce ne sera pas ce que vous espérez. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait ce qui est bon pour vous. Peut-être même que les autres vont se moquer de vous. Ils vont vous dire, tu sers un grand Dieu et tu as si peu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce si peu, parce qu'il vient du Seigneur, est une grande bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ce soir, il y a peut-être quelqu'un dépressif dans cette salle. Ce soir, il y a peut-être quelqu'un qui vit une situation difficile. Ce soir, il y a peut-être une femme qui vit ce que Anne a vécu avec un mari volage. Ce soir, il y a peut-être un mari qui vit ce que Anne a vécu, une femme libertine. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu, ce soir, peut entendre votre prière. Et Dieu, ce soir, peut vous apporter la paix. Et Jésus dit qu'il peut vous donner la paix comme personne ne peut vous la donner. Ça veut dire que même si le problème perdure, mais vous serez comme Anne, vous allez pouvoir manger, rire, votre visage sera différent. Parce que vous savez pourquoi? Vous aurez placé votre espoir en Jésus.
Père éternel, nous avons vu sur cette terre la souffrance. Père éternel, certains vivent encore cette souffrance. Certains sont mal aimés, tant de pères. Certains ont été victimes des autres. Certains sont victimes d'eux-mêmes. Mais Père, tu regardes chacun de la même manière. Et en ce soir, Père, quel que soit ce qu'on pense de nous, tu nous dis que tu nous aimes. Et quel que soit ce qu'on dit de nous, tu nous dis, je vous offre un avenir, un projet de bonheur. Et donc, c'est pour cette raison, Père, nous voulons te croire et en qui nous voulons placer notre confiance. Ô Père éternel, parfois on voit combien la souffrance est douloureuse. Ça bloque toute intelligence. On ne sait plus où tourner. On ne sait plus comment penser. On ne sait plus comment choisir. Nous sommes dans le vide. On a perdu toute confiance, parfois, Père, en toi. On te dit que tu ne nous aimes plus. Tu aimes toujours les autres et pas moi. En ce soir, Père, il y a des familles ici qui sont brisées. En ce soir, Père, il y a les enfants et les jeunes qui sont brisés dans leur propre foyer, brisés dans l'église. Brisé parce que la parole qui leur était apportée n'a donné aucun espoir, mais une parole de condamnation. Mais toi, Père, tu regardes et tu dis, mon fils Jésus-Christ, ton sauveur, il est là. Et en ce soir, il est ta réponse. Ô Père éternel, j'aimerais prier pour nos amis visiteurs, nos sympathisants, nos amis. Ceux qui ont eu le courage et la foi de s'efforcer malgré leur charge de la journée pour être présents en ce soir. Père, ils recherchent ta réponse. je te prie dans le nom de Jésus-Christ de te manifester dans leur vie. Je te prie, tant de Père, de visiter tes enfants et leur apporter la lumière, l'intelligence, la foi, le courage et la collaboration avec toi dans la solution que tu leur apportes. Ô Père éternel, j'aimerais prier pour une dernière chose. Père, certains d'entre nous, nous avons eu des mauvais conseillers. Nous avons bu tout ce qu'ils nous ont dit et nous avons cru tout ce qu'ils ont dit. Et aujourd'hui, à cause de leurs conseils, nous sommes perdus. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, Père, de stopper net ces conseils. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, Père, de briser la chaîne qui lie cette personne aux mauvais conseils et que tu puisses libérer tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Libère tes enfants, Père. Je prie pour ceux qui ont peur du diable. Je prie pour ceux qui ont peur des mauvais esprits. Je prie pour ceux qui ont peur de la superstition. Dans le nom de Jésus-Christ, brise les chaînes, tant de Père. Que chacun sache que en Jésus-Christ, il n'y a aucun esprit de peur. Mais il y a un esprit d'amour et de confiance dans la parole de Dieu. Père éternel, je te prie de briser les chaînes et que Jésus, devienne notre confiance. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu fais désormais et encore dans la vie de chacun, dans nos vies. Relève-nous, Père, car malgré nos problèmes, car malgré nos souffrances, malgré notre manque d'argent, malgré nos maladies, nos yeux sont fixés sur toi et nous resterons avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Et quel que soit ce qu'on nous fait, Père, nous resterons avec toi dans la joie et dans ton amour. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.